Voilà pour mon dernier enseignement lors de cette retraite. J'ai choisi le thème de Karuna, qui est la compassion. Donc on comprend bien que la sagesse est extrêmement importante, nous permet de discerner, de ne pas saisir. Et il a été dit qu'il y a vraiment besoin du complément de la compassion. Donc je ne vais pas réitérer cet aspect qui a été évoqué de la part de Charles. Le terme de Karuna signifie littéralement l'esprit-cœur qui tremble ou frémit en présence de la souffrance. Donc ceci signifie que nous nous laissons toucher par la dimension de la souffrance, que ce soit la nôtre ou celle d'autrui. Il y a une manière de développer cette qualité de la même façon qu'on peut développer metta, la bonté bienveillante. Et on le fera donc demain après-midi pour que vous ayez une expérience directe de cette qualité. Donc il s'agit bien de comprendre que comme pour la pratique de vipassana, nous allons au contact. Et nous avons beaucoup, quelque part, pratiqué la compassion. Dans le sens même d'être au contact d'expériences douloureuses physiquement, et puis les moments où nous sommes approchés et qu'on n'a pas peut-être été en réaction, eh bien ceci peut déjà s'intituler la compassion dans le sens d'avoir cette disposition d'esprit qui est ouvert, ouvert en présence de la douleur. Et ça, je crois que c'est très important de l'entendre. Très souvent, on va croire, ah, la compassion, ça veut dire que quelque part, on la dépasse. Et non, il s'agit bien d'envisager cette capacité extraordinaire de pouvoir demeurer au contact lorsque c'est douloureux. Donc ça, c'est une des premières choses et je crois que c'est un aspect immensément important à intégrer, à comprendre et ensuite à explorer dans notre méditation et dans notre vie. On a eu la chance, enfin moi j'ai eu la chance dans l'antichambre, la petite salle qui est attenante au temple de Bouddha, cette salle où on a fait les entretiens pendant un certain temps, d'avoir la présence de cette belle statue qui s'intitule Kuan Yin. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous pouvez toujours y aller jusqu'à vendredi matin, 10 h après, la porte est close donc. Hein. c'est une très belle représentation de Kuan Yin en tibétain Chenrezig. Donc Kuan Yin est le terme chinois, en sanskrit Avalokiteshvara. Et elle représente, c'est la déesse qui représente la compassion. Elle écoute la douleur du monde. Et si on lit son récit, et il y a bien sûr des pratiques, hein, on peut faire des pratiques, moi j'ai fait des pratiques de Chenrezig, on entre en résonance, en syntonie avec cette qualité, cette dimension-là. Donc il est dit que durant le 1er siècle, au nord de l'Inde, hein, probablement dans une région qui fait maintenant partie de l'Afghanistan, elle a été composée ce qu'on appelle le Sutra du Lotus. Et donc, c'est l'un des plus importants textes de la tradition bouddhiste. Et cette célébration du cœur, libéré, s'exprimant lui-même comme cœur libéré, dans une compassion puissante et illimitée. Donc, illimitée, c'est-à-dire pour tous les êtres. Pénétrant tous les coins de l'univers et soulageant la souffrance, où qu'elle se trouve. Où qu'elle se trouve. Donc il y a une immense capacité, des fois on la voit représentée de mille manières. Hein. Donc Kuan Yin, celle qui entend les pleurs du monde, elle a émergé comme cette personnification de la compassion. Et donc elle occupe une place centrale dans différentes traditions bouddhistes. Et donc elle a été représentée sous toutes sortes de formes en fait. J'aime bien décrire les différentes formes, donc vous allez patienter. comme j'ai eu l'éloge de la patience, je vais évoquer les quelques formes. Il y en a beaucoup. Elle est donc parfois représentée comme une présence féminine avec un visage extrêmement serein, tranquille, très tranquille. Bras étendus et yeux ouverts. Ouverts au monde, bras étendus pour embrasser ce qu'il y a dans le monde. D'autres fois, elle tient une baguette de saule, symbolisant sa résilience. Donc cette dimension de résilience capable de plier sous les terribles tempêtes sans se casser. C'est un petit peu ce que disait Sandrine quand elle a parlé du bambou qui ne casse pas. Elle est également représentée avec un millier de bras et de mains, chacun avec un œil ouvert, et on peut voir hein, au centre de ses mains, c'est le symbole, cet œil, c'est le symbole de la conscience. La conscience dans le sens de conscience éveillée permanente, et aussi de cette capacité de voir la douleur. Les yeux, c'est toujours cette dimension de vision, de conscience, de présence. Et donc, à nouveau, cette capacité d'embrasser et de pouvoir répondre aux besoins des êtres. Par moments, je crois que ça c'est important, en tout cas moi je l'ai vraiment beaucoup perçue comme ceci, elle prend l'apparence d'un guerrier lourdement armé, avec énormément de force, et donc elle personnifie quelque part l'aspect féroce de la compassion engagée. Et ça c'est un point important, parce qu'il y a la puissance. Donc souvent quand on dit « oulala, mais je suis empli de colère », cette colère, elle peut peut-être être à un niveau, mais sous cette colère, il y a une puissance immense de pouvoir sentir qu'on a un aspect extrêmement fort, puissant, engagé par rapport à déraciner les causes de la souffrance. Donc cet aspect féroce, vous pouvez vous le représenter vraiment de mille manières. Des fois, c'est tiens ça, vous pouvez penser au guerrier qui tranche l'ignorance, qui tranche les afflictions mentales. Donc tout ça, naturellement, on peut se le représenter, mais il s'agit aussi dans les pratiques, dans certaines pratiques, d'incarner ces qualités-là. La résilience, l'engagement, la bienveillance, la dimension de puissance, et j'aime bien de puissance féroce par rapport à parler de la compassion. Donc, on a toutes sortes de formes et naturellement qu'on va pouvoir employer ces formes selon les besoins. Maintenant, il est dit que Karuna, c'est donc la compassion, généralement, c'est une action, c'est un verbe. Alors que l'attitude dans l'esprit, c'est metta. Si vous voulez, metta, c'est l'attitude de l'esprit, c'est la bienveillance, la bonté qu'il faut pour pouvoir, quelque part, avoir l'aspiration, le souhait, l'intention de souhaiter du bien, souhaiter quelque chose de favorable. Et ensuite, cette qualité de bienveillance et de bonté, dans le sens du soin, va être mise en action, c'est-à-dire qu'elle va agir. Donc lorsqu'on parle de compassion, c'est souvent en action parce qu'il y a de la douleur dans le monde, parce que le monde n'est pas exempt de douleur. Donc on a une attitude là qui fait appel à nos qualités et ensuite qui va entrer en relation, dans le sens de pouvoir exprimer, manifester ce qui est ressenti, éprouvé. La compassion est quelque chose de différent de l'empathie. Et très souvent, c'est intéressant de les discerner parce que on les confond souvent. Ah, je suis pleine d'empathie. Oui, il faut de l'empathie. C'est évident que l'empathie, c'est quelque part cette qualité qui va nous permettre d'entrer en syntonie, c'est-à-dire quelque part vibrer avec, quand on dit le cœur qui tremble, mais en syntonie avec la douleur, être touché par la douleur, être quelque part en capacité de sentir ce que l'autre peut éprouver, mais il n'y a pas cette dimension de qualité, d'équilibre qui provient justement de la sagesse. Vous voyez, on peut très bien être empathique, et puis du coup, ce qu'on parle, et souvent là encore n'y a pas très longtemps, j'ai lu des articles par rapport au syndrome de l'empathie, qui fait que les personnes sont en burn-out parce qu'il y a trop d'empathie. Donc, on se perd dans l'autre, submergé par la douleur. Donc, on peut avoir un excès d'empathie. C'est tout à fait possible d'avoir un excès d'empathie. Il manque d'équilibre, tout simplement. Il manque vraiment quelque part de cette qualité de stabilité, de présence, de contact, de rester en soi-même. On n'est pas perdu dans l'autre. Quand ça-ci se développe, bien sûr qu'il y a des phases. Hein, alors, on va peut-être se perdre, c'est évident, mais après, on se tient. Ah oui, là, il y a quelque chose peut-être à vérifier et puis se repositionner. Donc, lorsqu'on parle de compassion dans ce sens de qualité qui est vraiment quelque part manifestée et exprimée, on parle d'une qualité qui a été développée, hein, comme on développe Sati, ici depuis des semaines, hein, et voire même avant. Donc, il y a un développement, une progression, et on arrive un jour à la compassion, d'accord ? Donc, c'est quelque chose à cultiver, c'est à nouveau une pratique, c'est pas juste donné comme ça. Donc, très souvent, il est dit qu'il n'y a pas d'excès de compassion. On ne peut pas l'avoir en excès, c'est un peu comme la présence, comme l'attention. Dans le sens que là, ce qui se passe, qui est différent de l'empathie, c'est que la composante d'identification aux émotions, colère, peur, inquiétude par rapport à la douleur, n'est tout simplement pas présente. Donc voilà la dimension de la sagesse qui va vraiment sous-tendre, et on parle très souvent de l'équanimité, hein, comme étant la qualité qui sous-tend la compassion parce qu'elle nous aide à pouvoir demeurer en équilibre dans la situation, en situation, c'est-à-dire en situation par rapport à nous-mêmes, puis par rapport à autrui si on est dans une situation qui va naturellement s'élargir et comprendre d'autres personnes, d'autres êtres, des animaux, d'autres êtres vivants. Donc l'empathie, c'est tellement intéressant. Je crois que c'est intéressant de lire sur l'empathie. Parce que l'empathie, c'est déjà le premier mouvement, c'est-à-dire d'être concerné par l'autre, d'être vraiment quelque part dans une dimension de care, comme on dit en anglais, plutôt que d'être indifférent. Vous voyez, c'est très facile d'être indifférent. Et donc, il y a quelque part un manque d'empathie, on en parle très très souvent aussi, dans le sens d'être replié et d'être à distance, pas concerné, parce que justement, on est submergé peut-être par la peur d'entrer en lien. Donc, l'empathie, c'est quelque chose qui peut être cognitif, c'est-à-dire qu'on peut penser à l'autre, à la situation de l'autre. Et puis, ça peut être aussi émotionnel. Donc, il y a les deux niveaux. Le niveau cognitif est, je suis en pensée avec cette personne et je ressens ensuite. Donc, cette dimension de sentir, on la développe beaucoup ici. Parce que justement, on n'est pas uniquement dans les concepts, les idées par rapport à, nourrir, tiens, ce serait bien de faire quelque chose pour cette personne. Ça, c'est un niveau. Et ensuite, il y a cette disposition du cœur, de l'ouverture du cœur qui fait que les émotions-là sont aussi engagées. Et c'est ces deux éléments qui vont nous aider à aller à une véritable compassion. On parle d'intelligence émotionnelle, qui n'a rien à voir avec l'intelligence rationnelle. Je raisonne et puis je sais ce qu'il faut faire. Il y a là une disposition qui fait que, quelque part, l'énergie qu'on a beaucoup, beaucoup située dans le mental va tranquillement glisser, et Metta permet ceci aussi, et va nous mettre dans un espace-cœur. C'est « oh wow !» L'intelligence émotionnelle, ça comprend aussi les émotions. Donc, c'est comme ça que, quelque part, on va cheminer sans être complètement accablé par la souffrance ou débordé par la souffrance. Et ça, c'est un cheminement. C'est un cheminement et ça se développe. Et bien sûr qu'on fait un pas en avant, trois pas en arrière, un pas en avant, trois pas en arrière. C'est pas quelque chose qui, à nouveau, est linéaire, c'est normal. Mais c'est bien d'avoir un tout petit peu, à mon avis, de compréhension dans le sens du cheminement, et puis de savoir où c'est. Tiens, qu'est-ce qui m'habite là? Quel est le cheminement? Donc, on a une attitude qui est tout autre, et bien sûr que la qualité de sati est là, équilibrée, dans la mesure du possible, non réactive. S'il y a de la réaction, eh bien, à ce moment-là, cette qualité d'empathie va aller dans le sens de accueillir les réactions, accueillir la peur, accueillir la colère, accueillir quelque part la douleur qu'on ressent par rapport à la situation d'une autre personne. C'est déjà un pas immense plutôt que de se refermer. Donc cette qualité de présence attentive qu'on a cultivée d'instant en instant, elle va nous aider tout au long du chemin, à chaque instant. Est-ce qu'il y a réactivité? Est-ce qu'il y a metta qui nous aide? Est-ce qu'on peut s'accompagner dans le sens de pouvoir, quelque part, nous ouvrir pour ensuite découvrir que par moment, il peut y avoir une ouverture, une disponibilité à simplement ressentir la souffrance, et à ce moment-là, on peut le nommer compassion. Et donc, très tranquillement, on démarre avec l'intention, cette aspiration, et puis on se met en situation, on peut imaginer des situations en pratique, on le fera demain. Et puis bien sûr qu'à ce moment-là, on peut aussi l'explorer dans notre vie quotidienne et voir ce qui se passe. Donc il ne s'agit pas uniquement dans ce contexte bouddhique. Et je crois que ça c'est très intéressant parce que c'est assez incroyable de pouvoir avoir une perspective qui fait qu'il ne s'agit pas seulement de se soucier ou d'être concerné par la détresse, par quelque part la souffrance, mais on est assez optimiste, ou en tout cas ambitieux, dans le sens que le texte va dire, et les enseignements du Bouddha disent, de s'engager dans le sens d'y mettre fin. Dans le sens d'y mettre fin, c'est-à-dire qu'on va naturellement ici déraciner les origines de la souffrance, dont on a parlé maintes et maintes fois. L'ignorance, l'aversion, enfin, tous ces aspects, je ne vais pas me répéter. Donc, c'est quelque part quand même une perspective assez élevée, on va dire, dans le sens de pouvoir y mettre fin. Donc, on fait la différence là entre la douleur primaire et puis la souffrance ajoutée qu'on ressent. Donc, un jour, dans un sutra, il y a la mention du Bouddha qui se promène et il va d'ermitage en ermitage, il va visiter ses moines et puis il voit dans un des ermitages un moine assez âgé, étendu à même le sol d'une cabane, dans des conditions absolument déplorables. Il avait la dysenterie et il était évident qu'il était resté à terre depuis plusieurs jours sans recevoir d'aide. Et le Bouddha demande au vieil homme pourquoi les autres moines n'avaient pas pris soin de lui. Et il répond, « Je ne suis d'aucune utilité maintenant que je suis vieux. Pourquoi se soucierait-il de s'occuper de moi ?» C'est touchant, non? Et le Bouddha n'est pas du tout d'accord avec cette réponse. Il a vraiment un grand respect pour l'humanité de cet être et il envoie son compagnon Ananda, hein, le cousin du Bouddha, Ananda, chercher de l'eau chaude. Et tous les deux, ils l'allongent sur un lit, le lavent et vraiment, quelque part, vraiment essayent qu'il soit le plus confortable possible. Et ensuite, le Bouddha réunit tous les moines. Et ce qui va suivre, quoi. Et il leur dit, non, mais c'est plein d'humanité. Alors, bon, c'est des récits, hein. Après, il n'a rien écrit, le Bouddha, hein, donc à voir. Mais en tout cas, il y a là un message extrêmement humain. Moine, vous n'avez ni père, ni mère, ni frère, ni sœur. Vous avez quitté le monde. Vous devez être frère et sœur, mère et père, les uns pour les autres. Celui qui souhaite me servir, qu'il serve les malades. celui qui souhaite me servir, qu'il serve les malades. » Donc vous voyez combien c'est empli d'humanité, hein, dans le sens de laisser absolument personne, même celui qui est vieux, qui sert plus à rien, hein, au niveau de servir et dans le sens d'être utile. Donc, je trouve qu'il y a une immense humanité là, et c'est très intéressant de voir dans combien de sutras on perçoit cet élément-là de l'humanité du Bouddha qui est empli de compassion et de respect pour quelque part les êtres est très présente. Donc, on a naturellement ici, s'il y a de la compassion, il y a dukkha. Il ne peut pas y avoir de compassion sans dukkha. Hein. Donc, on regarde dukkha et la fin de dukkha. Et généralement, on voit que les conditions sont universelles. C'est le fait de l'expérience humaine. La compassion consiste à vraiment élargir le fait que ceci est universel. Et donc, il n'y a pas tellement cette dimension du cercle de mes préoccupations, mais vraiment d'avoir une perspective, de se dire, c'est universel, c'est un défi qu'on a tous. Et au milieu des défis, il y a cette expérience. Il y a cette vérité, la vérité de la souffrance. Donc, la tendance à se contracter autour du cercle de mes préoccupations est quelque chose à regarder. Hein. Il n'y a que moi qui souffre, puis voilà, je tourne autour de moi-même. Et quelque part, on n'écarte pas du tout ça. Il y a vraiment cette dimension de compassion pour soi-même. Et les vers, les strophes vont mentionner ça. Je demeure en rayonnant, en faisant rayonner la compassion aussi bien pour moi-même que pour tous les êtres. Donc il ne s'agit pas de s'oublier, mais il s'agit vraiment d'aller au-delà de nous-mêmes. Donc c'est universel et naturellement, on va tous éprouver à un moment donné la maladie, la perte. Et donc l'entraide est quelque chose d'essentiel. L'entraide est quelque chose d'essentiel, elle n'est pas toujours présente. La preuve, c'est que dans le sutra, même ces moines, ils avaient un peu négligé ce frère. Et il y a eu un rappel, là. Et donc, on a là une situation qui est très intéressante, qui fait qu'on est souvent dans la négligence de cet aspect-là. Donc, Charles en a parlé, hein, hier. Et donc, de réveiller cette dimension-là. Et je crois qu'en tout cas, pour ma part, moi qui ai grandi en Afrique, comme beaucoup d'entre vous le savez, il y avait des lépreux, il y avait vraiment de très grands malades dans la rue. J'étais toute petite et figurez-vous qu'on me mettait des gants blancs par protection. Et il n'y a pas très longtemps, ça m'est revenu cette image. Je me disais, mais vous vous rendez compte, c'est incroyable. Je veux dire, waouh, ça m'a tellement touchée, mais tellement touchée, cette image que j'avais complètement mais occultée, que je n'avais pas du tout repris, considérée. Puis il y a plein d'images qui ont émergé de cette période, j'avais 3-4 ans. Hein. Et donc, je me souviens très bien que je posais tout le temps la question, mais pourquoi il souffre autant? Pourquoi est-ce que on ne prend pas soin d'eux? Et moi, je suis certaine que j'ai été dans le cheminement spirituel, ouvert, hein, parce que j'ai trouvé le bouddhisme bien plus tard. Mais cette question du sens de l'humanité et de l'humain et du rapport à l'autre a été au cœur de cet être-là, vous voyez en face de vous, mais depuis toute petite, mais vraiment depuis toute petite, je me disais, mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Donc il y a cette dimension-là qui est très intéressante et l'état proche de la compassion. Et c'est vrai qu'on peut ressentir ça d'une façon encore plus évidente. Et au départ, c'est ça qu'on ressent, c'est quelque part de la pitié. La pitié, c'est l'état qui est proche, qui ressemble à la compassion, mais qui n'est pas de la compassion. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on va avoir cette capacité de pouvoir quand même entrer en lien, mais il y a ce sentiment du moi-je, naturellement, qui dit « Ah, mais heureusement que ce n'est pas moi, quoi. Heureusement que ce n'est pas moi, heureusement que ben, voilà, je ne suis pas dans cette situation. » Donc, le sentiment du « moi », là, qu'on a un petit peu regardé il y a quelques jours et qu'on peut voir naturellement émerger ici ou là, eh bien, il est présent, il a quelque part de l'empathie, il s'apitoie, il ressent, mais dans, si on reste à ce niveau-là, il est sans ressources. Vous voyez ce que je veux dire? Il est sans ressources. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à sortir de cette dimension d'être accablé, d'être désespéré par rapport à la situation du monde, des autres. Et donc, il s'apitoie. Et l'apitoiement, c'est un des quelque part, c'est un des facteurs mentaux, un des états d'être le plus proche. Et c'est tellement intéressant de le contempler, de le vivre, justement d'avoir cette empathie pour cette dimension-là. Et de regarder en soi-même, de dire, « Ouais, mais en soi-même, c'est dukkha, ce sentiment d'apitoiement. » En soi-même. Alors, on peut avoir aussi cet apitoiement pour soi-même, hein. C'est évident, je veux dire, voilà, pauvre de moi, s'apitoyer sur son sort, quelque part, il y a un sentiment un petit peu de désespoir, et puis surtout d'handicap dans le sens de pas pouvoir sortir de la situation. Il y a vraiment cette dimension de pas avoir l'énergie d'en sortir. Donc, si on craint dukkha, il y a de fortes chances qu'on reste un petit peu coincé là. Qu'on reste un peu de temps là à dire ouh, et puis après ben voilà, c'est exactement là qu'on trouve toutes les manières de pouvoir créer un modèle d'évitement, hein. Le modèle d'évitement qu'on connaît bien, qui est par exemple formé, comme je l'ai dit il y a plusieurs jours, une vision de soi qui est en incapacité de faire face à la situation. Du coup, ça justifie le fait de rester dans ce désespoir. Ça justifie le fait de se dire « Ah, mais je suis de toute façon pas capable. » Et je reste dans cette dimension de « je suis pas capable », donc ça me limite et ça quelque part, ça m'enferme au niveau de mon potentiel. Et c'est là que Kuan Yin, avec son sabre féroce et puis son énergie de compassion, nous met quelque part un petit coup de fouet pour dire « Non, mais réveille-toi, là !» Et puis c'est possible, il y a d'autres sources qui peuvent venir. Donc c'est tellement intéressant cette spirale de pouvoir descendre plus bas et tout. Puis tout à coup on est dans le trou, puis on se dit mais bon, ben, une fois qu'on est dans le trou, on ne peut que remonter. Hein. Donc c'est intéressant ça. Donc quelque part il y a le besoin de constamment s'en référer à la qualité de la présence, à Sati. Sati va nous aider tout du long à discerner et à voir, tiens, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est Sati qui va nous permettre de dire, ah ben oui, ici c'est quelque part de la pitié et puis c'est pas de la compassion, hein, par exemple. Et de prendre en compte les émotions qui sont là. Donc, que va faire à ce moment-là Sati? Ben, ça va rompre le lien entre cette tonalité affective dont on parle beaucoup, qui est la dimension désagréable ici, et la réactivité. Ça, c'est un lien très important dans ce processus, parce que comme tout est processus, il y a les dimensions désagréables, la tonalité affective, hein, ce lien est là, c'est désagréable, mais il y a cette capacité de dire, tiens, c'est désagréable, mais c'est ce à quoi je réagis, le désagréable. Donc ça brise, c'est la première fonction de Sati, c'est de briser quelque part, cette réactivité, et au moment où la réactivité tombe, elle est automatique hein, la plupart du temps, ben, c'est possible à ce moment-là d'être en rencontre du désagréable avec curiosité, discernement, et vous l'avez vu, hein, avec équilibre, plutôt qu'avec aversion. Ça va nourrir l'équanimité. C'est ça qui nourrit l'équanimité. Et donc, on reste en équilibre, on peut tranquillement voir que ah oui mais c'est possible en fait d'être en présence de cette sensation désagréable, même douleur physique, Alors qu'avant, on se disait, mais c'est absolument impossible de rester. Et quelque chose bouge et ça nous permet, là, à ce moment-là, de voir que on peut y arriver. Du coup, on ne limite plus notre potentiel à ce moment-là. Au contraire, il s'élève. Donc ça, c'est la première fonction de la présence attentive, immensément importante. Puis la deuxième fonction de cette présence, c'est justement d'intégrer le champ de notre capacité. C'est-à-dire de prendre en compte le fait que, ah oui, il y a une capacité beaucoup plus grande que celle que j'avais imaginée, que mon narratif. Le narratif qui va dire non, mais je ne peux pas, je suis incapable, ce n'est pas possible. Et là, la fonction de la présence, elle va inclure à ce moment-là l'investigation. Et percevoir que, avec pleine conscience, eh bien, c'est possible de voir peut-être l'histoire que je me raconte. L'histoire va augmenter les vagues émotionnelles, on se perd dedans, mais aussi on se réveille. Donc ça nous permet de sortir de cette spirale d'être perdu dans les narrations. Donc ça, ce sont les deux fonctions de la présence. Quand on est en lien avec nourrir la compassion, par exemple, et les deux ont besoin d'être pratiqués. Donc c'est extraordinaire de voir combien il y a de couches d'interprétation là. Waouh, il y en a tellement, en tout cas pour ma part, c'est inimaginable. Il y a tellement de couches d'interprétation, de commentaires et le fait d'être ouvert et sensible à ça, le fait de sentir, c'est ok, mais de voir, c'est juste quelque part prendre appui sur la qualité de la présence, se stabiliser, rester au contact, avoir naturellement la bonté qui nous aide. Et à ce moment-là, plutôt que chaque fois repousser et s'éloigner, eh bien, on peut découvrir quelque chose d'un tout petit peu plus juste, demeurer à nouveau au contact de l'expérience présente. La compassion grandit. La compassion grandit. On n'a pas besoin de pousser. Donc, ce n'est pas du tout du stoïcisme ou de la volonté forcée ici. C'est simplement cette capacité de pouvoir un tout petit peu demeurer. Il y a des moments où on peut, il y a des moments où on ne peut pas. C'est tout simple, mais c'est vraiment tellement tendre et tellement, quelque part, honorable, hein, digne de pouvoir dire, tiens, ben, oh, maintenant, non, ce n'est pas possible, je ne peux pas. Je m'en sens pas la force, par exemple, ou la capacité, mais c'est OK. Puis à ce moment-là, peut-être que j'ai d'autres moyens et je me ressource autrement en allant faire une superbe promenade, en regardant l'eau, en regardant les feuilles tomber. Et il y a une capacité la plus grande qu'on va retrouver à un autre moment. Donc ça implique qu'on rencontre par moment la peur de ne pas y arriver. La peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être à la hauteur de la situation. Et donc, à ce moment-là, on intègre notre collègue, notre colère, notre tristesse, et on n'a pas besoin de perdre pied. Et si on perd pied, eh bien, on se rend un grand service quand on se relève. Là, il y a un petit texte d'Ethil Soum. Vous savez qui est Ethil Soum, j'imagine. Elle dit, il faut apprendre à vivre avec soi-même, comme avec une foule de gens. On découvre alors en soi tous les bons et les mauvais côtés de l'humanité. Il faut d'abord apprendre à pardonner ses défauts, si l'on veut pardonner aux autres. C'est peut-être l'un des apprentissages les plus difficiles pour un être humain, que celui du pardon de ses propres erreurs, de ses propres torts. La condition première en est de pouvoir accepter et accepter généreusement le fait même de commettre des fautes et des erreurs. Plein d'humilité là, plein de modestie, d'humilité, de tendresse, de voilà, c'est exactement l'inverse de l'orgueil. Donc, simplement humain. Simplement humain. Donc la pitié est l'état proche de la compassion. Il lui ressemble, mais il ne l'est pas. L'état opposé et lointain, bien sûr, est la violence. Donc opposé, la violence, la cruauté, il y en a plein, malheureusement, dans ce monde. Et donc, il y a un texte du Bouddha qui dit très clairement, ces vers sont très célèbres, hein, il parle beaucoup de la violence et de la haine et combien ceci est une spirale qui va ne faire qu'accroître la violence et la haine et qu'on ne peut pas mettre fin à la violence par la violence. On voit ceci aujourd'hui même. C'est inimaginable. Exactement ça. La haine n'est jamais apaisée par la haine, par la non-haine seule. Elle est apaisée. Ceci est une vérité éternelle. La victoire donne naissance à la haine, le perdant dort tourmenté. Abandonnant aussi bien la victoire que la défaite, celui qui va en paix dort réjoui. Tous tremblent face à la violence. Tous ont peur de la mort. Après avoir comparé les autres à vous-même, oui, ne tuez pas ou n'amenez pas les autres à tuer. Si vous passiez en revue le monde entier, vous ne trouveriez personne qui vous soit plus cher que vous-même. Comme c'est à lui-même que chacun est le plus cher, que ceux qui s'aiment ne fassent pas de mal à qui que ce soit. Ils sont merveilleux, ces vers. La personne qui jour et nuit se délecte dans la non-violence et qui est bienveillant envers tous les êtres est celle qui n'a pas de haine pour qui que ce soit. Donc j'ai eu une demande, hein, il y a des textes que j'ai lus, j'ai reçu des petits mots. Le dernier jour, ces textes vont apparaître sur le tableau d'affichage, je vous rassure. Parce qu'ils sont vraiment importants, beaux et tellement riches d'enseignements. Voilà, vous pouvez vraiment dormir tranquille. Donc c'est un texte vraiment immensément important, je veux dire, aujourd'hui c'est complètement... incroyable de pouvoir lire ça et de voir ce qui se passe dans le monde. Donc, l'antidote à la violence, c'est la non-violence. La non-violence, on peut la nommer compassion, bienveillance. Et c'est le fait de pouvoir être concerné par soi-même comme par les autres. Si on ne se fait pas du mal à soi-même, on ne fait pas de mal aux autres. C'est une évidence. L'aspect qui est tellement important, et je trouve qu'il y a des textes de Thich Nhat Hanh qui sont très riches dans ce sens, lui il parle beaucoup de la qualité d'écoute. Il dit justement qu'il manque d'écoute, qu'on n'a pas le temps d'écouter. Voilà. Et donc, exactement comme Kuan Yin qui écoute les pleurs du monde. Le fait de pouvoir être dans une disposition où on va pouvoir quelque part être à l'écoute des cris de désespoir et que ceux-ci ont besoin d'être entendus. Il y a vraiment une compréhension assez profonde dans l'enseignement du Bouddha, c'est que les actes de violence sont justement un appel désespéré pour obtenir attention et secours. Que ces personnes, ces êtres-là n'ont pas été entendus, reconnus, vus et que quelque part les actes de violence proviennent des appels désespérés. Et Thich Nhat Hanh résume ceci en disant « Toute violence est une forme d'injustice et provient d'une forme d'injustice. » Donc le fait d'écouter est quelque chose qui peut être extraordinairement important. Écouter, accueillir, et ça va nous donner naturellement à nouveau cette disposition d'être en capacité de faire face à la douleur, comment elle peut nous sensibiliser, et combien on peut l'étendre, la laisser rayonner et considérer les êtres humains comme nous-mêmes. Donc c'est une voie à suivre, c'est vraiment une merveilleuse qualité qui accompagne aussi la sagesse, tout ce qu'on a développé. Ça demande beaucoup de centrage, je trouve, d'équanimité, de centrage, de demeurer dans son axe, et puis ensuite de tolérance et aussi de résilience. Il y a beaucoup de qualités là qui sont très proches, qu'on doit nourrir. Et ça demande aussi de pouvoir sentir, comme j'ai pu sentir quand j'étais petite fille, cette dimension d'impuissance. Des fois, on se sent vraiment impuissant. Et donc, l'impuissance va amener au désespoir. Et de reconnaître cette impuissance, on va se dire, et puis quoi? Eh bien, c'est là que la compassion en action est assez extraordinaire. L'impuissance ne veut pas dire on ne peut rien faire. Il y a toujours quelque chose à faire. On peut toujours offrir un sourire, offrir une parole. Puis bon, hier ça a été bien mieux dit que ce que je dis là. Donc il y a vraiment une manière de pouvoir agir par petites touches. C'est déjà beaucoup. Mais de ne pas être enfermée dans cette disposition qui parfois m'habite où je suis dans une impuissance, puis à quoi bon quoi? Ça sert à quoi? Et d'en sortir. Parce que je crois que chacun, chacune peut agir et ne pas s'arrêter à ces discours qu'on a parfois qui font qu'on a une vue limitée, une vision extrêmement rétrécie et étroite. Donc le soin, le fait d'être concerné, c'est quelque chose qu'on incarne. C'est quelque chose qu'on incarne, c'est quelque chose qui nous habite et qui fait du bien à nous-mêmes. Donc on peut à ce moment-là calmer cette agitation environnante. Je vous rappelle juste que la compassion doit absolument être équilibrée avec la joie. Dans l'enseignement, compassion et joie cheminent ensemble pour qu'il y ait un équilibre. J'ai donné un enseignement sur Mudita les premiers 15 jours et c'est absolument indispensable pour qu'il y ait un équilibre, sinon, comme j'ai pu l'évoquer, on sombre. Donc c'est l'ami de la compassion. Elle équilibre cet aspect douloureux de pouvoir vraiment considérer la beauté, considérer la bonté, considérer la satisfaction, alléger quelque part le fardeau qu'on peut des fois ressentir. Même cette dimension d'épuisement, de fatigue, de l'empathie. Il faut s'aérer. Il faut absolument s'aérer pour ne pas s'effondrer. C'est indispensable. Et c'est l'équanimité qui va justement nous permettre de faire tout ceci avec sérénité. La joie, ce n'est pas de l'excitation, puis voilà, ah, c'est super, ouais. Ça n'a rien à voir avec ça, je veux dire, c'est quelque chose de très nourrissant. Voilà, ce n'est pas une espèce d'exutoire de notre façon de plus en pouvoir. Donc c'est quelque chose de très... très beau en quelque sorte, dans le sens de la tranquillité, parce qu'il y a de la sérénité, de l'équanimité. Il y a un petit texte de Christian Bobin qui dit « Il y a un homme qui arrive au paradis, il demande à un ange, à son ange, de lui montrer le chemin qu'ont dessiné ses pas sur la terre. » Par curiosité, tout simplement, par enfantin désir de voir et de savoir. « Rien de plus simple, dit l'ange. » L'homme contemple la trace de ses pas sur cette terre depuis son enfance jusqu'à son dernier souffle. En revanche, quelque chose l'étonne. Parfois, il n'y a plus de trace de ses pas. Parfois, le chemin s'interrompt et ne reprend que bien plus loin. L'ange dit alors, « Parfois, votre vie était trop lourde pour que vous puissiez la porter. Je vous prenais alors dans mes bras jusqu'au jour suivant où la joie vous revenait. Et alors, vous repreniez votre chemin. C'est magnifique ce texte. Alors, si jamais il vous intéresse, c'est un très beau livre de Christian Bobin qui s'appelle « La vie passante ». Hommage à lui, vraiment. Donc, nous avons des ressources merveilleuses du cœur. Ces ressources, ben voilà, nourrissons-les, arrosons-les. C'est absolument essentiel de pouvoir exprimer quelque part le metta, la bonté bienveillante, la compassion, la joie, l'équanimité, de cultiver ces qualités, ce qu'on nomme les quatre illimités. Elles font complètement partie du chemin et elles nous permettent quelque part de nourrir cette dimension du cœur, du lien aussi à la vie. Donc il y a vraiment deux façons, pour revenir juste à la compassion, on peut comprendre que face à la souffrance du monde, il y a deux bonnes raisons qui sont à notre disposition pour cultiver quelque part un courage, comme ils disent, un courage, une qualité qui fait qu'on a envie de cheminer, même si l'état du monde est désespérant. C'est la compassion qui est une motivation beaucoup plus efficace que justement l'aversion. Donc ça, c'est un des motifs. Et puis, l'autre aspect, ça s'appelle Samvega, et c'est quelque part cette dimension de pouvoir ressentir que, en appréciant le cheminement du chemin, on sent ses ressources grandir. C'est ça, Samvega. C'est quelque part, ça nous donne une envie de continuer, de persévérer sur notre chemin. Ces deux réponses vont contribuer, bien sûr, à notre bien-être, à notre paix intérieure. Donc, je vous souhaite de pouvoir rester confiant dans notre capacité à faire une différence dans notre attitude, pour nous-mêmes déjà et pour le monde. Qu'on ait cette confiance, vraiment, qu'on puisse quelque part avoir cette qualité de confiance, même si on la perd, on la retrouve. Il n'y a pas que la lumière, il y a des fois l'ombre, mais cette confiance est là et elle peut grandir. Je vais terminer avec un poème d'un poète que j'aime beaucoup, qui s'appelle Abdellatif Labi. C'est un écrivain poète marocain, né à Fès. C'est lui qui a fondé, je ne sais pas si vous connaissez cette revue qui s'appelle Souffle, et en 66, et il a vraiment joué un rôle absolument incroyable pour le renouvellement culturel au Maroc, dans tout le Maghreb en fait. Et son combat pour quelque part sortir les personnes de leur ignorance, puis vraiment aller dans le sens d'une révolution culturelle, on peut dire, lui a valu 8 ans de prison. Donc, un être qui vit maintenant en France, il a reçu le prix Goncourt de la poésie et aussi le grand prix de la francophonie de l'Académie française. Donc, merveilleux. Et lui a écrit ce texte, une humble prière, comme il le dit, une humble prière pour que la barbarie ne tue pas jusqu'à l'espoir. Ça s'appelle comme ça, cette prière. J'atteste qu'il n'y a d'être humain que celui dont le cœur tremble d'amour pour tous ses frères en humanité, celui qui désire ardemment, plus pour eux que pour lui-même, liberté, paix, dignité, celui qui considère que la vie est encore plus sacrée que ses croyances et ses divinités. J'atteste qu'il n'y a d'être humain que celui qui combat sans relâche la haine en lui et autour de lui. Celui qui, quand il ouvre les yeux au matin, se pose la question « Que vais-je faire aujourd'hui pour ne pas perdre ma qualité et ma fierté d'être un être humain ?»